Allô, bonjour, c'est Arnaud Viral à Paris de Toulouse. J'ai 39 ans et c'est la première fois de ma vie que j'entends un homme politique dire « je ne sais pas » en public. Et c'était une femme, c'était Simone Veil sur Inter ce matin. Et je voulais lui dire « bravo madame de m'avoir fait découvrir qu'un politique pouvait avoir l'intelligence d'avouer qu'il ne savait pas quelque chose. Et honte à vous les autres, et surtout les hommes, d'être toujours à la hauteur de votre ignorance. » Voilà, au revoir, à bientôt.
Merci à tous. Et c'est donc de larges extraits de cet entretien avec Adriano Sofri qu'on retrouvera un jour plus en longueur parce que il nous a dit vraiment des choses très précieuses. Merci à Bruno Giorgini et à Francesco Giorgini. Bruno, c'est le papa technique aujourd'hui, Patrick Henry et Benjamin de la Gâtinais. Assistant Coy Nguyen, assistante Anne de Giaferi, le répondeur c'est Christophe Imbert, le numéro c'est 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Un petit peu de pub.
René Souchot, peintre sculpteur, intello manuel, Moutière-sur-Blourde, dans le bas du Haut-Poitou. Message à l'intention de notre premier ministre. L'intelligence de la tête vient du cerveau. L'intelligence de la main vient du cœur. L'intelligence du pied vient de la rate. L'intelligence du coude vient du foie. L'intelligence du genou vient du poumon. L'intelligence de la fesse vient de l'estomac. L'intelligence de Raffarin vient du gros côlon. Bien le bonjour, Daniel.
Et ben voilà, hop, c'est envoyé. Et c'est sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37, vos messages. Quelques-uns de vos messages, pas tous, jamais tous, hein. Et pardon à ceux qu'on ne peut pas passer, mais c'est la vie, c'est comme ça. On passe ceux qui nous semblent pertinents, amusants, intéressants, provoquants, qui sont des grains de sel et des grains de sable aussi, dans la grande machine qui nous broie. Aujourd'hui, le Rwanda. On va commencer à parler du Rwanda dès aujourd'hui. À partir du 30 de ce mois-ci, on va consacrer une longue série d'émissions au Rwanda. Vous savez qu'on y était durant le génocide de 94, et puis ensuite en 95, et puis en 96. L'année passée, en 2003, et là bientôt nous repartons pour le Rwanda. Donc ce sera un ensemble de reportages sur ce pays et sur ce qui s'y est passé, qui ne passe pas. D'abord, ce qui s'est passé ne passe pas, c'est vrai. Et puis aussi parce que c'est une histoire tout à fait à part, tout à fait différente de tout ce dont nous avons parlé depuis 15 ans. C'est un génocide qui a eu lieu là-bas et ça n'est pas rien. Et comme quelqu'un nous l'avait dit à l'époque, en 1995, un génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas. Eh bien, en effet, le génocide du Rwanda ne fait qu'apparaître, commencer à peine à apparaître aussi bien à la conscience des Rwandais, des Africains, mais du monde entier. Donc voilà, à partir du 30. Mais dès aujourd'hui, on va passer une heure avec un général, c'est assez rare quand même dans la base que j'y suis, qui s'appelle Roméo Dallaire et qui dirigeait la mission des Nations Unies au Rwanda pendant les événements de 93 à 94. Et il est l'auteur d'un livre étonnant qui s'appelle J'ai serré la main du diable ou la faillite de l'humanité au Rwanda. Vous avez sans doute vu déjà la silhouette de cet homme, vous l'avez entendu sur Inter notamment. On va passer pas mal de temps avec lui parce qu'il est un témoin central du génocide du Rwanda, mais il est aussi doué de conscience, une conscience très très vive sur ce qui s'y est passé, sur ce qu'il y a fait et sur ce que c'est devenu pour lui. Le génocide est un crime qui ne vieillit pas et qui travaille en profondeur, on peut dire, la conscience et l'âme de ce général avec qui on va donc passer cette heure. Après, D'autres messages que voici. Le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37.
Salut Daniel. Comme tous les mercredis de 18h à 19h, nous sommes devant la préfecture de Belfort. Depuis le mois de juin, nous sommes fidèles au poste, sous la pluie, sous la neige, sous le soleil ou dans le froid. Nous sommes là. À l'issue des grèves du printemps, nous avons constitué un groupe, la RAL, Résistance Antilibérale, pour montrer que nous n'avons pas baissé les bras, pour dire non au chaos social. Belfort, c'est comme partout, la misère qui pousse sur tous les trottoirs. Alstom qui licencie 1000 ouvriers, les fermetures d'écoles, les suppressions de postes d'enseignants, la répression syndicale. Mais nous ne nous laissons pas abattre, nos rendez-vous ont un petit air de fête, apéro, merguez et chansons. Alors avis à la population de Belfort et d'ailleurs, tous ceux qui en ont marre du gouvernement Chirac, Raffarin, Medef, venez partager le verre de la solidarité et de la révolte. A bientôt Daniel. Mercredi 10 mars, rendez-vous devant la Maison du Peuple à 18h pour le comité d'accueil Sarkozy. On y va ? Hein ?
Nous sommes les nouveaux partisans, tranquillants de la guerre de classe. Le temps du peuple est notre temps, nous sommes les nouveaux partisans.
Salut Christophe Humbert. Voilà, il faut dire à Daniel... Il faut qu'il arrête les bruitages, le fond sonore là, parce que ça dérange, et puis c'est surtout pas utile. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut nourrir ses propres propos, alors qu'ils sont déjà bien assez nourrissants. Alors, il faut l'engueuler une bonne fois pour toutes. C'est pas nécessaire. Faut lui dire, Christophe, faut lui dire à Daniel qu'il arrête ses bruitages de merde, quoi. Tout simplement, c'est pas malin. Il se suffit bien à lui-même, n'est-ce pas? Voilà, salut.
Oui, bonjour, Dominique de Bordeaux. J'ai l'occasion d'écouter votre émission. Bon, je ne vais pas vous tutoyer, je ne vous connais pas vraiment. Mais je ne sais jamais dans quel état je vais en sortir. Des fois, je me rends compte qu'il y a des gens dont les situations sont désespérées, à la limite plus désespérée que celle que je peux connaître, et je me dis c'est terrible. Et il y a aussi des gens dont je me dis mais c'est pas vrai, ils sont cons, encore plus cons que moi, c'est désespérant. Et pourtant j'aime bien écouter votre émission, alors je sais pas, doit être un peu maso. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec le lieutenant général Roméo Dallaire. J'ai serré la main du diable.
Flight number 2, arriving from Newton.
Les voisins, avec les machettes, coupaient maman, papa, et mes soeurs, mes frères.
Rwanda, une solution finale.
Moi, je cours à pied. Cours. À pied.
Rwanda, un nazisme tropical.
Moi, je tombe dans le ruisseau. Je couche pendant une heure. Avant une heure, je cours encore.
À partir de lundi 14h, France Inter, Rwanda, sous silence.
C'est tout.
Tu crois qu'ils vont te tuer?
Oui, je suis convaincu.
Tu crois ça?
Je pense que s'ils revenaient, ils me tueraient.
Mais ils vont revenir. Rwanda, le retour des réfugiés. Impossible justice, impossible oubli.
Même si on n'est pas tué physiquement, on est mort de l'intérieur. Parce que c'est pas possible de voir tous les jours celui qui a tué ta famille et qui est là en liberté avec tous ses enfants alors que toi tu sais ce que tu as perdu.
À partir du lundi 16 décembre, 15h, là-bas si j'y suis au Rwanda.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
Rwanda sous silence en 1994, lorsque nous revenions du Rwanda, de Nyarubuye, où nous venions de découvrir ce charnier, et dans ce charnier de découvrir cette fillette de 13 ans, Valentine, Nous avions appelé notre série de reportages Rwanda sous silence, tant nous avions l'impression d'arriver trop tard, que les choses étaient déjà sans intérêt pour l'opinion et pour les auditeurs, et aussi que nous commencions à comprendre que des forces voulaient que ce qui se passait là-bas soit secondaire. L'été 1994, on affirme que le président François Mitterrand aurait dit, dans un pays comme celui-là, un génocide, ce n'est pas très important. Et c'est effectivement ce qui prévalait à ce moment-là dans les médias et dans l'opinion. Et en 95, nous sommes retournés au Rwanda pour essayer de retrouver cette fillette, Valentine. Vous en souvenez, j'en suis sûr, parce que vous êtes nombreux régulièrement à nous demander les nouvelles de Valentine qu'on vous donne. Et nous l'avons effectivement retrouvée en 1995. Il y a l'histoire de la vache. On reviendra là-dessus dans les émissions, la suite d'émissions que nous allons consacré au Rwanda à l'occasion du 10e anniversaire de ce génocide, et on aura des nouvelles de la vache de Valentine qui se porte bien. Et puis nous sommes à nouveau retournés en 1996 pour le retour des réfugiés. 2 millions, plus de 2 millions de Rwandais, des Hutus, étaient sortis du pays, s'étaient réfugiés dans les pays voisins et revenaient parce que, vous le savez, il s'agit d'un génocide de voisinage, c'est-à-dire que c'est les voisins qui ont tué leurs voisins, et c'était le début de ce retour improbable, de cette justice si difficile, si impossible, qui est un défi pour la pensée humaine, tout simplement. Et puis, nous sommes retournés à plusieurs reprises au Rwanda, encore l'an passé, au mois de mai, et là nous partons bientôt, comme je le disais, et donc c'est avec tous ces témoignages que nous rendrons un hommage aux survivants, à ceux qu'on appelle les morts qui marchent, à ceux qu'on appelle les morts dont la mort n'a pas voulu. C'est comme ça qu'on appelle cette petite jeune femme maintenant. Qu'est-ce que dit petite? Mais non, elle est très grande. Elle a 23 ans et elle fait partie de ceux qu'on appelle les morts dont la mort n'a pas voulu, c'est-à-dire les rescapés du génocide. L'histoire du Rwanda n'est pas encore écrite, je veux dire l'histoire de ce génocide. Il faudra beaucoup d'années encore pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on ne peut pas imaginer. Et ce qui s'est passé là dépasse quand même très largement nos imaginations. Mais au moins peut-on contribuer à cette compréhension. Et c'est ce que fait Roméo Dallaire, lieutenant général, donc dans ce livre énorme de précision, énorme d'émotion aussi, et qui a pour sous-titre la faillite de l'humanité au Rwanda. Et c'est vrai que ce qui s'est passé au Rwanda est une faillite de l'humanité, et une faillite aussi, on le verra, aussi de l'humanitaire, mais aussi une faillite de l'humanité de chacun d'entre nous dans son intimité. C'est comme ça que nous avions vécu à l'époque ce dont nous avions été témoins. Et dans ce désespoir, eh ben il y avait cette jeune fille qui était restée 39 jours dans ce charnier, absolument seule, et qui a survécu, et dans son acharnement à survivre, nous avons vu comme une résistance. Nous sommes accrochés à son instinct de vie, non pas comme un instinct de vie, mais comme une rébellion, comme une résistance à son anéantissement et finalement à notre anéantissement. Alors on est avec le général Roméo Dallaire aujourd'hui pour évoquer ce qu'a été sa mission. C'est un militaire, il parle comme un militaire, et il apporte des précisions sur le déroulement de ce qui s'est passé au Rwanda il y a 10 ans. J'ai serré la main du diable, Roméo Dallaire.
Pour le moment, donc, la plupart des 3000 étrangers installés au Rwanda observent à la lettre les consignes de sécurité, c'est-à-dire rester tranquillement à l'abri chez eux et surtout ne pas sortir, en attendant, bien sûr, d'être amenés rapidement par les militaires jusqu'aux ambassades occidentales. Écoutez, le témoignage de Philippe Lambrecht, le PDG d'une firme belge de transport, qui vit depuis 3 ans à Kigali avec sa femme et ses 8 enfants. Philippe Lambrecht, malgré la sécurité dont il jouit, ne cache pas son inquiétude devant la gravité de la situation actuelle. Au micro de Mathieu Delahousse.
Nous sommes parmi les bienheureux de Kigali qui habitent à 100 mètres de l'ambassade de France. Ça veut dire que nous sommes sous la protection quasi directe des militaires français. Je crois aussi qu'il faut dire le rôle lamentable, et c'est l'opinion, je pense, de l'ensemble de la communauté ici, toute communauté confondue, le rôle absolument lamentable de l'UNAMIR.
Les forces de l'UNAMIR sont les forces des Nations Unies qui sont ici depuis plusieurs mois. Et c'est ce qu'on appelle les casques bleus.
Est-ce que vous avez peur de ce qui peut se passer maintenant à Kigali?
Oui. C'est un chaos total. Un imbroglio politique assez important. En
fait. Vous allez quitter le pays?
Ma famille quitte certainement le pays. Moi, je suis très inquiet pour mon personnel. Je sais que mon chef comptable a été tué. Je l'ai eu en direct au moment où il s'est fait tuer d'ailleurs. Il était au téléphone en train de me demander de l'aide. Et malheureusement, je ne pouvais pas lui en donner parce qu'on ne pouvait pas sortir dans Kigali et que l'UNAMIR refusait systématiquement d'intervenir dans les quartiers. On ne demandait pas à l'UNAMIR d'être entre les parties, on demandait simplement de faire de la dissuasion, de circuler, ne fût-ce que de circuler, ça aurait évité beaucoup de petits règlements de compte. Et je crois que là, il faut le dire très clairement, l'UNAMIR ne fait rien.
Voilà, un écho du Rwanda il y a 10 ans. La mission des Nations Unies dont il est question dans ce reportage, eh bien, c'est la MINUAR, c'était la mission des Nations Unies au Rwanda. Et le responsable de cette mission des Nations Unies au Rwanda, c'était le général Roméo Dallaire. Je vais essayer de résumer, d'expliquer en quelques mots les plus brefs possibles la situation à cette époque, il y a 10 ans au Rwanda. Il faut rappeler que ce tout petit pays au cœur de l'Afrique a été découvert très tardivement par les Blancs, colonisé d'abord par les Allemands et puis par les Belges après la Seconde Guerre mondiale. Et il faut rappeler que ce pays, on a vu des tribus, on y a vu des ethnies opposées et antagonistes. En fait, depuis des siècles, Hutus et Tutsi vivaient dans ce pays en partageant un même état, une même langue, une même religion et vivaient dans une intégration très grande, avec un antagonisme qu'on pourrait qualifié d'antagonisme social, mais qui n'était en rien un antagonisme racial ou antagonisme ethnique, comme la colonisation va l'imposer. Le colonisateur va imposer son regard, son analyse, sa projection sur ce pays, et va d'ailleurs instaurer les ethnies, la notion d'ethnie qui va figurer sur les cartes d'identité de chacun. Il y a 3 ethnies, les Hutus majoritaires, 85% environ, les Tutsis 14%, et puis les Twa, une petite ethnie de 1%. Cette façon de voir les choses, d'analyser, de sectoriser, c'est la vision coloniale. Et pour maîtriser et pour dominer, les colons belges vont utiliser une élite tutsi pour gouverner ce pays, disons indirectement. Pour aller vite, lorsque le vent des indépendances souffle sur l'Afrique dans les années 50, les colons vont changer complètement de politique et vont, voyant que les Tutsis pourraient, cette élite Tutsi pourrait prendre l'indépendance et le pouvoir, eh bien va s'appuyer sur la majorité en nombre, Hutu, pour manipuler une révolte Hutu. Et ça va donner les premiers massacres de 1959, massacre des Tutsis par les Hutus en 1959. Exode des Tutsis dans les pays alentours, au Burundi notamment, mais beaucoup en Ouganda. révolution, indépendance, 1961, pouvoir Hutu, puis en 1973, coup d'État à nouveau, pouvoir Hutu, et toutes ces années de domination des partis Hutu est scandé par autant de massacres, de persécutions des Tutsis qui vivent en diaspora dans les pays alentours et notamment, je l'ai dit, en Ouganda où ils accumulent des forces, des soutiens, des fonds et constituent une armée, le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Et ce Front Patriotique Rwandais, en 1990, entre au Rwanda et s'installe, occupe le nord, une partie du nord du Rwanda et s'approche de Kigali. On les appelle les rebelles du FPR, les Tutsis rebelles du FPR. Face à cette situation, en 1992, sous la pression de la communauté internationale, cette insaisissable communauté internationale, on arrive à un accord qui est l'accord d'Arusha et qui prévoit une certaine intégration des deux parties. Et c'est là que cette mission des Nations Unies pour le Rwanda s'installe à Kigali, avec donc pour mission de faire en sorte que ces accords se passent le mieux possible. Mais en aucun cas il n'y a de mandat de sécurité ou d'intervention de type militaire, véritablement. On en est là lorsque, en fait, ces accords de paix ne plaisent pas à tout le monde, et notamment à un parti extrémiste qui opère autour de la présidence du Rwanda et qui cherche à déstabiliser et qui ne veut pas de ces accords. Ce sont les extrémistes, on va appeler ça le Hutu Power pour aller vite, et qui prépare ces massacres, et qui prépare ce génocide, et qui manifeste des signes évidents de son projet. D'ailleurs, des rapports sont donnés à différents pouvoirs, aussi bien en France, en Belgique, au Vatican, aux États-Unis et également aux Nations Unies. Ces signes avant-coureurs ne sont pas pris en compte, et ce sera le 6 avril, suite à l'attentat contre l'avion du président, où le président Habyarimana meurt, eh bien, ce sera le déclenchement du génocide du Rwanda, qui va durer 3 mois, environ 100 jours, et au cours de ces 100 jours, 1 million de personnes seront tuées. Le général Dallaire arrive dans ce pays en 1993, quand il est nommé. Il ne sait pas du tout où se trouve le Rwanda. Il sait vaguement que c'est en Afrique. Et il arrive en tout cas à Kigali avec une mission précise. Vous veniez pourquoi ? Quelle était votre mission ?
Alors, la mission à ce moment-là, c'était de voir si on pouvait y mettre une mission des Nations Unies afin d'aider à l'avancement de l'accord de paix, qui demandait une force internationale neutre comme arbitre entre les deux côtés, afin d'assurer que tout le monde œuvrait sereinement vers la mise en place du gouvernement et ultimement une force intégrée.
Et l'application des accords d'Arusha de 93.
Ben c'est tout basé sur ça, oui.
C'est ça, tout était basé là-dessus. Yeah. C'est là-dessus que vous arrivez, mais c'est pour l'aide, hein, vous venez d'employer le mot aide, vous venez d'employer le mot arbitre, mm-hmm. Il n'est pas question de sécurité là-dedans.
Non, c'était bien clair que j'avais aucun mandat d'établir unilatéralement la sécurité. Au contraire, mon rôle, c'était d'aider à créer une atmosphère de sécurité avec les deux intervenants qui, de façon classique, demandaient à un arbitre pour assurer que tout le monde allait jouer selon des règles pour mener à bon port l'accord d'Arusha.
Alors, on parle d'un génocide annoncé, préparé, prémédité, planifié. À partir de quel moment vous commencez à comprendre qu'il y a une planification d'un génocide ou de massacre?
Oui, il faut être assez spécifique dans le sens, c'est que c'est au début de janvier, avec l'information d'un chef des Interahamwe qui se livre à nous.
Qui s'appelle, vous appelez Jean-Pierre?
Jean-Pierre. Que l'on commence à avoir des données beaucoup plus concrètes, des détails sur l'opération, mais à aucun moment est-ce qu'on parle de génocide comme tel, on parle de massacre. Et déjà, avant de venir en Afrique, on anticipait la possibilité de massacre. Quand j'ai atterri le 22 octobre, la veille, il y avait eu le coup d'État au Burundi, et dans rien de temps, je me suis ramassé avec 300 000 Burundais réfugiés, et des dizaines de mille de gens qui flottaient dans les rivières. Alors, tout notre perspective, c'était qu'il allait y avoir des massacres d'envergure, mais que ce terme génocide étant tellement lié dans nos cultures avec l'Holocauste, ne rentrait pas dans notre lexique.
Alors, mais ça vous évoquez dans votre livre ce Jean-Pierre qui vient vous parler, qui vous explique, qui se prépare, il a fait partie des Interahamwe, c'est-à-dire ces milices qui s'entraînent, qui se préparent, et puis il y a autre chose dont vous avez connaissance, c'est des caches d'armes.
Une des responsabilités que Jean-Pierre avait dans la structure de milice attachée au parti MRND, donc le parti du président qui était le seul parti avant les tentatives de multipartisme qui ont commencé en 92, faisant partie du processus d'Arusha, son rôle était de distribuer justement des armes. Alors, il nous a expliqué en détail comment les armes étaient déplacées d'un endroit à un autre, utilisant non seulement des autos civiles, mais aussi des véhicules militaires. Donc, ça a fait un lien avec les militaires, des gens des unités élites, qui participaient à la distribution de ces armes-là, et où on a tenté d'avoir, de faire une vérification de la crédibilité de Jean-Pierre, c'était d'aller voir justement où étaient les caches d'armes, et donc on a pu envoyer quelques-uns de mes officiers franco-africains en civil d'aller voir et confirmer que les caches étaient bel et bien là.
Que se passe-t-il en ce moment à Kigali? Un calme apparent, selon le rédacteur en chef de la radio rwandaise, Jean-François Semgumvia, joint il y a quelques instants tout juste par Régis Picard.
Le calme, en tout cas, à ce que je peux en juger d'où je suis maintenant, je n'entends plus des coups de feu alors que je les entendais vraiment d'une façon qu'on ne peut pas imaginer.
Et vous pensez qu'après cette montée de violence très très brutale, le calme peut revenir aussi vite?
Oui, je le crois. Je le crois parce qu'à un moment donné, on sentait en vide. Les gens s'en prenaient à d'autres sans que personne ne bouge. Mais dès que les militaires ont pris leurs responsabilités et qu'ils ont donné ordre de tirer à vue à tous ceux qui avaient commencé à s'attaquer à d'autres ou qui avaient commencé à attaquer la ville pour piller, alors à ce moment-là, on a quand même assisté à une accalmie.
Alors, écho dans les jours qui suivent l'attentat contre l'avion, c'était en avril 1994, ce journaliste de Radio Rwanda, ou bien n'est pas très très au courant de ce qui se passe, ou bien n'a pas beaucoup de respect pour la vérité. En fait, les militaires et l'armée tout spécialement étaient déjà en train d'encadrer les tueries. Et c'est pas le calme que l'armée rwandaise a amené, mais au contraire, c'était l'encadrement de ces massacres. Mais bon, c'était pas forcément lisible tout de suite. Le mot génocide n'est apparu que au bout de quelques jours. Cela dit, pas tant de jours que ça, mais il n'en était pas question encore à cette époque-là. Voix de la radio, de Radio Rwanda, dans un pays comme le Rwanda, la radio a une très très grande importance, tout comme d'ailleurs dans l'Afrique en général, mais peut-être encore plus spécialement dans ce petit pays où 95% des gens sont analphabètes, où il y a une très bonne diffusion de la radio, et où la radio, c'est la voix divine. Et presque deux ans avant le génocide du Rwanda, avait été créée une radio, la RTLM, Radio-Télévision des Mille Collines, qui allait être l'outil du génocide et qui avait ce projet pour but. C'était pas du tout flou. Et qui allait préparer psychologiquement, idéologiquement la population à ces massacres. Et dès le déclenchement des massacres, eh bien cette radio va accompagner, diffuser des listes de personnes à tuer, indiquant leur habitation, leur déplacement, indiquant ensuite à travers tout le pays les déplacements, les endroits où il faut être, encourageant les assaillants et les bandes de tueurs, tout en donnant des indications à ceux qui encadrent et qui organisent ces massacres. Je rappelle qu'il y a eu des jours où c'était 20 000, 30 000 personnes qui étaient tuées dans une seule journée, ce qui suppose une organisation très précise. Et cette radio était écoutée, entendue partout et par tous, et notamment par le général Roméo Dallaire. Alors, d'autres symptômes dans les médias, où la radio des Mille Collines commence à émettre et pousse au crime déjà.
Ah oui, elle a commencé au mois de octobre-novembre, ça a commencé tout de même un peu lentement. Mais la radio du gouvernement aussi était assez houleuse contre les Nations Unies. Mais elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle minimisait la présence des Nations Unies. Donc, elle n'informait pas les gens que nous étions sur le terrain pour les aider. Et beaucoup de gens du Rwanda n'étaient absolument pas au courant de notre présence jusqu'à temps qu'on puisse leur expliquer sur le terrain. Radio-Télévision Mille Collines, qui a été financée par des hommes d'affaires du Rwanda, avait comme objectif de semer la zizanie et le trouble et avancer les théories, les thèses que les Tutsis, mais en particulier le Front patriotique, parce qu'on utilisait beaucoup le terme Front patriotique, qui était à 90% Tutsis, que le Front patriotique travaillait, œuvrait à revenir au pays et de reprendre le pouvoir comme le font les Tutsis avaient avant la révolution.
Le chef du FPR, c'est Kagame, c'est Paul Kagame, et vous le rencontrez?
Alors là, il faut faire attention aussi. Kagame était le responsable pour toutes les opérations militaires. Il y avait Alexis Kanyarwenge, je me rappelle exactement le... qui était un Hutu, qui était le président de cette structure, mais c'était un monolithe. Hein? C'est ça qui leur donnait un grand avantage, c'est que le politique, le militaire, leur structure administrative, c'était vraiment bien structuré et il y avait une intégration là. Alors, moi, sur le côté militaire, mon intervenant était Kagame, le représentant spécial, son intervenant était Alexis, mais souvent nos discussions prenaient nature politique aussi, vu que dès presque le début, on avait des impasses politiques.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que on a dès le début, on s'est ramassé dans des conflits entre durs et modérés.
À l'intérieur de leur camp?
Non, à l'intérieur des partis politiques qui étaient du côté des Hutus.
Ah d'accord.
Alors c'est pas. Ah,
attendez, d'un côté, vous rencontrez Kagame, vous rencontrez la tête du FPR.
Ouais.
Quelle impression ils vous font ces gens-là?
Ah mais l'impression, c'est un groupe exceptionnellement organisé, intégré, discipliné, qui utilise tous les bons termes pour les raisons de leur présence au Rwanda, qui deviennent de plus en plus châtiés par les Ougandais, il est temps de retourner, on veut être reconnu, que les enfants des réfugiés de 59 veulent avoir une identité de nationalité, et donc le Rwandais. Ils sont un parfait exemple d'une organisation rebelle bien organisé et orienté purement à leur retour. Ce qui n'est pas le cas du côté du gouvernement, parce que le gouvernement a encore un pays à gérer et ils sont influencés par mille et une autres activités.
Mais du côté FPR, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les Tutsis en exil reprennent leur place dans le pays, au Rwanda, ou bien est-ce que le FPR veut prendre le pouvoir?
Ah, mais il est clair à ce moment-là que ce qu'ils propagent, et par leur radio aussi, Mouaoura, c'est le désir de tout simplement revenir et être reconnu comme les citoyens rwandais. Où ils ont délaissé de leurs ressources, c'est-à-dire maisons ainsi de suite, qu'il y aurait un processus pour pouvoir les permettre à reprendre ou à négocier une entente. Et que l'accord de paix essentiellement garantissait que la dictature de Habyarimana, ce qu'ils utilisaient comme terme, serait brisée et que le pouvoir serait partagé d'une façon démocratique.
Partagé, démocratique.
Parmi tous les partis politiques qui ont signé l'accord de paix.
Du côté maintenant du pouvoir, c'est de cette dictature, comme disait le FPR. Vous rencontrez Juvénal Habyarimana, le président. Quelle impression il vous fait? Vous décrivez dans votre livre, il vous reçoit sous un parasol sans anneau.
Oui, justement. C'est sur un patio et il nous recevait. Il fait tellement beau là, tout de même au Rwanda. Alors, il n'y a jamais eu de rencontre officielle dans son bureau. Avec lui d'une façon formelle, ça a toujours été des rencontres sur le patio ou d'une façon décontractée. Essentiellement au début et pendant une longue période, je le croyais vraiment maître de la situation. Il mettait cette confiance, il était articulé, il reflétait dans ses yeux un désir de amener à bon port l'accord de paix. Et lorsqu'il a prêté serment le 5 janvier, bon ben là, on voyait d'autrement plus qu'il voulait, lui, faire avancer l'accord d'Arusha, sauf que sa crédibilité était continuellement minée par son parti politique, MRND, et nécessairement son extension avec les Interahamwe, qui était la ministre de ce parti-là, était minée par le CDA, qui était un parti politique qui n'a pas signé l'accord de paix, mais qui était ultra-raciste, anti-Tutsi, et aussi minée par les rumeurs d'une troisième force qui œuvrait à détruire le processus de paix et dont à nombre d'occasions on entendait parler de son épouse et de ses beaux-frères qui étaient intégrés dans ce processus subversif dont l'opération zéro, le power, tous des termes qui reflétaient des lignes dures, mais lignes dures qui étaient du côté extrémiste.
Alors, vous avez ces renseignements qui vous sont donnés par ce Jean-Pierre. Il y a l'affaire des caches d'armes. Mmh. Donc, vous informez les Nations Unies. Vous informez vos supérieurs.
Oui, c'est-à-dire, et je vous félicite d'utiliser le terme informé parce que c'est exactement ce que je faisais. Je demandais pas aucune autorité de mes supérieurs pour mener des opérations offensives pour aller chercher ces armes-là et d'une façon peut-être un peu brutale de faire réaliser aux extrémistes que nous étions conscients de qu'est-ce qui se passait et que on pouvait donc reprendre l'initiative sur la situation et déstabiliser tous leurs efforts. Donc, parce que je rentrais dans une autre phase d'opération, j'ai cru, selon nos procédures de normes, d'informer mon cardinal supérieur que j'entamais ce nouveau processus et qu'il y avait des risques, mais que j'étais dans 36 heures, je serais en opération. Et la réaction a été vive et immédiate, me disant que, un, arrêtez toute planification. Deux, je suis totalement hors de mon mandat de tout simplement informer les deux côtés d'arrêter cette activité-là. Et troisièmement, de me retourner vers le mandat, donc aller informer les chefs de MRND, aller informer le président que de toute l'information qu'on avait afin que lui prenne action. Et on y avait donné 48 heures, puis 48 heures plus tard, on nous avait donné absolument aucune réponse. Mais à ce moment-là, ils savaient tout ce que nous autres, on savait.
Quelques rafales à l'aube et des tirs de canon qui ont diminué d'intensité vers la mi-journée. Mais dans les quartiers, des cadavres traînent encore. Ici, c'est une vingtaine de corps qui gisent dans un chemin creux. Les miliciens passent devant sans un regard. Ils sont à pied ou en voiture et brandissent fièrement leurs machettes ou même des grenades. Mais aujourd'hui, ils semblent plus occupés à piller qu'à massacrer. Dans le quartier de Guikongo, un entrepôt de bicyclettes a été dévalisé. Plus bas, ce sont les stocks du CICR et du Programme Alimentaire Mondial. Des centaines de civils quittent les entrepôts avec un sac sur la tête ou une camionnette chargée à ras-bord. Autre vision devant l'ambassade de France, où on se prépare à évacuer vers l'aéroport. Les para-français circulent dans la ville, le doigt sur la gâchette, pour ouvrir une route qui contourne la ligne de front située près du quartier Réméra. Sur la colline des ministères, plus de 200 voitures, environ un millier de personnes, des étrangers, se préparent à partir en convoi par la route à l'heure qu'il est. Les Américains qui organisent cette évacuation ont envoyé des véhicules en reconnaissance pour s'assurer que les barrages des miliciens seront franchis sans problème. Car hier, un convoi a essuyé quelques tirs. Jean-Hélène, RFI, Kigali pour France Inter.
La voix de Jean-Hélène, le 8, 9 ou 9 avril 1994, décrit le début des massacres à Kigali et Roméo Dallaire, le général avec qui nous sommes, l'auteur de ce bouquin étonnant qui s'appelle « J'ai serré la main du diable, la faillite de l'humanité au Rwanda », vivait, était à l'intérieur même de cette tragédie. Je dis un livre extraordinaire parce que il y a toutes ces précisions évidemment d'un témoin de premier plan, mais il y a aussi une émotion, l'émotion d'un homme toujours aujourd'hui et peut-être encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, tourmenté par ce qu'il a vu et ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas pu faire, surtout au Rwanda. On le sait bien sûr aujourd'hui, ni la France, ni la Belgique, ni les Nations Unies, ni les États-Unis, mais surtout ni les Nations Unies ne voulaient intervenir, ne voulaient se mêler de ça. C'était une affaire, comme dit Roméo Dallaire, de nègres entre eux, c'était une affaire de tribus, c'était une affaire d'ethnie. Ceci ne nous regardait pas et ça a été le troisième ou quatrième, comme on veut, génocide du 20e siècle, une faillite de l'humanité. Pourquoi, selon vous, l'ONU refuse d'intervenir?
Alors, quelques facteurs. Le premier facteur, c'est que faut retourner au mois d'octobre 93, donc quelques mois auparavant, même à ce moment-là, janvier, deux mois auparavant, lorsque les Américains perdent 18 soldats à Mogadiscio. Donc, tout l'exercice et le repli massif des Américains et l'abandon des Somaliens qui mouraient de faim par les Américains, avait affecté tout le monde. Donc, les Nations Unies en particulier, qui, eux, œuvrent avec des troupes qui sont prêtées aux Nations Unies. Parce que les troupes sous mon commandement me sont prêtées. Ils ont encore lien direct avec leur pays qui peut leur ordonner de faire ou pas faire des opérations que je supporte ou que je planifie. Donc,
ça veut dire qu'à chaque opération, ils en réfèrent à leur pays, non, quand même?
Chaque opération qui mettait leurs troupes à risque, oui.
D'accord.
Yeah. Alors, ou dont ils percevaient que c'était pas dans leur mandat, et ils pouvaient faire ce lien. Et à ce moment-là, suivre l'ordre de leur pays et non pas les ordres de moi. C'est la méthode qui existe malheureusement, mais qui est là dans les opérations des Nations Unies. Et c'est parce que les pays veulent que ce soit comme ça. Mm-hmm. Donc, personne voulait s'impliquer dans une opération qui amenait des risques de perte de soldats. Donc, cette atmosphère régnait aux Nations Unies. Tout le monde avait peur que je me ramasse dans une embuscade puis que je perde des soldats puis tout le scénario allait s'effondrer. Deuxièmement, New York avait le devoir de me rappeler des limites de mon mandat. Et dans ce contexte-là, moyennant qu'est-ce qui se passait, je devais œuvrer dans les limites de mon mandat. Et les limites de mon mandat étaient beaucoup plus serrées que le mandat que les Rwandais s'attendaient de moi dans l'accord de paix d'Arusha. Donc, il y a eu beaucoup de confusion dans mon rôle de support versus mon rôle d'établir. Et ça s'est perpétué tout au long parce que l'information, donc les gens qui connaissaient la situation, alors les ministres, de la défense et ainsi de suite, ne passait pas cette information clairement au peuple rwandais. Donc, ce sont deux gros facteurs qui ont orienté mes supérieurs aux Nations Unies de ne pas me permettre de faire ces opérations, même si ces armes-là allaient être utilisées contre nous, parce qu'ils savaient aussi que les Belges étaient potentiellement ciblés. Ils ont refusé de me donner des opérations et, par extension, le Conseil de sécurité les a supportés.
Alors, vous parlez assez peu de la France dans votre bouquin, mais quand même, quand vous arrivez, quelle est l'influence de la France? On sait que la France a soutenu financièrement, militairement, politiquement, on pourrait dire, le régime Habyarimana.
Oui, mon Dieu, quand vous dites que j'ai parlé peu, j'avais l'impression, moi, que j'avais tout de même été assez catégorique dans l'implication de la France au Rwanda, qui est une implication qui n'était pas franche ni transparente. C'est une implication qui avait à l'extérieur tout le bon vouloir, mais que, selon moi, il y avait des aspects qui étaient moins clairs. Comme, par exemple, je trouvais ça impossible que la France, avec ses systèmes d'information, avec son attaché militaire, avec les 20-quelques officiers, sous-officiers qui étaient dans les entrailles des unités, particulièrement des unités élites, dont la garde présidentielle, ne pouvait aucunement...
À quel moment?
Mais tout au long, hein.
Tout au long. Dans les entrailles même, on avait des officiers supérieurs français.
Oui, ils étaient les aviseurs techniques pour aider à entraîner, constituer l'armée rwandaise et aussi de leur montrer comment se servir des armements français dont ils possédaient sur le terrain. Donc, ils savaient qu'est-ce qui se passait. Les Belges en avaient autant et même dans les quartiers généraux, il y avait des aviseurs dans la gendarmerie. Alors, ils y étaient disposés partout. Il y avait un réseau très solide d'informations qui...
Et de direction.
Et, c'est-à-dire de direction
le
dans le contexte. Non, ils n'étaient pas dans la chaîne de commandement. Ils étaient aviseurs. Ils n'étaient pas...
Qu'est-ce que vous appelez aviseurs? Conseillers?
Conseillers, c'est ça.
Les troupes françaises ne sont là que pour assurer la sécurité de nos compatriotes et l'évacuation en bon ordre de nos compatriotes.
Michel Roussin.
C'est la seule mission que le gouvernement a donnée aux troupes françaises. Pour le reste,
ministre de la coopération,
l'ONU qui est représenté, 2500 militaires de l'ONU sont
11 avril 1994.
Ils ont une mission, il faut qu'ils l'assurent. De la même façon que la France était arrivée à faire en sorte que les différentes ethnies, les différents partis se réunissent à Arusha à l'été dernier, puisque c'est en août que s'est déroulée cette conférence, et bien de la même façon, si enfin les hommes deviennent raisonnables et si enfin on arrive à un cessez-le-feu et à un processus de paix, si on interroge la France, bien la France répondra présent.
Alors, ce que moi j'ai déploré, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai fait appeler des attachés militaires de la Belgique et de la France pour venir m'aider à constituer le processus d'entraînement pour la nouvelle armée d'intégration après la démobilisation des deux forces, parce qu'il fallait que j'œuvre tout de même à la préparation de ça. Du côté français, c'était l'attaché militaire. Du côté des Belges, c'était un officier, un lieutenant-colonel, qui était l'assistant G3 des opérations des phares. Alors, quand je leur ai demandé, j'ai dit tout de même, vous savez beaucoup plus que moi qu'est-ce qui se passe dans ces unités-là, qu'est-ce qui se passe du côté militaire. J'ai dit, sûrement vous avez de l'information qui pourrait m'aider, moi, à avancer le processus de paix. Et la réponse est venue très claire, nous ne servons pas deux maîtres.
Ah.
Et j'ai absolument rien reçu de ces gens qui était, comme je dis, dans les entrailles même de l'organisation de la structure formelle des phares, donc, et aussi des unités extrémistes, des unités d'élite.
Donc, ils ont été là avant, pendant, ce qu'on a appelé le génocide, on va y venir.
Ah, là, pendant, c'est une spéculation. Ils étaient là avant, jusque même le soir du début de la guerre civile et des problèmes. On a vu quelques gens blancs habillés dans l'uniforme
des forces gouvernementales.
Bien que il y avait des gens qui nous disaient qu'il y avait des blancs aussi qui œuvraient avec le FPR, on n'a jamais vu de ce côté-là. Mais les officiers français, dans leur concept de aider et conseiller les armées des pays dont ils étaient appelés à le faire, souvent portaient l'uniforme de cette armée-là. Mm-hmm. Donc, on voyait des officiers français avant la guerre en uniforme des phares.
Alors, des forces gouvernementales.
Donc, après le début de la guerre, on voit des gens, des blancs habillés dans l'uniforme. On peut extrapoler ce qu'on veut.
Ça peut être des mercenaires aussi.
Absolument,
bien.
Oui. Alors, on peut pas vraiment, à moins de reconnaître les visages spécifiquement, ce qu'on n'a pas pu reconnaître, s'ils étaient encore les aviseurs ou les conseillers.
Alors, on en arrive, en général, on en arrive au 6 avril. Le 6 avril 1994, ce sera une très grande date. Hein. Il y a eu le 11 septembre 2001, mais ce 6 avril 1994, c'est une date au moins aussi importante. C'est le jour où l'avion qui transporte le président Habyarimana, le président du Rwanda, ainsi d'ailleurs que le président burundais, est attaqué. Il y a un attentat. Alors, vous êtes où, là? Vous vivez ça comment? Comment vous apprenez ça?
On avait terminé la journée de travail au bureau. Il était autour de 6h30. J'étais dans ma résidence. On prenait le souper. Et j'ai reçu l'appel téléphonique d'un quartier général disant qu'il y a eu une grosse explosion au camp Kanombe. Après, ils ont rappelé pour dire qu'ils pensaient que c'était le dépôt de munitions qui a sauté. Et donc, de 8h20-30 jusqu'à 10h30, on recevait toutes sortes d'appels avec des théories différentes. Mais essentiellement, Mme Agathe, la première ministre, nous a informé que, selon elle, c'était l'avion du président qui était mort. Et ça a été confirmé un peu plus tard par mon officier de liaison des phares, disant que c'était exactement ça.
face à une situation jugée très confuse et dangereuse. Le Conseil de sécurité des Nations Unies lance un appel pour que cessent les violences, des violences qui ont en 24 heures causé la mort d'un grand nombre de civils. Parmi les victimes figure le Premier ministre du Rwanda, Madame Agathe Uwilingiyimana, juste avant d'être tuée par des membres de la garde présidentielle sur les ondes de Radio France Internationale. Elle avait demandé aux Nations Unies d'intervenir au plus vite.
Ce que je peux dire à la communauté internationale, c'est de solliciter à la communauté internationale d'intervenir pour que le peuple rwandais puisse garder.
Sans doute, pour finir, la voix la plus pathétique de cette tragédie du Rwanda, celle de Madame Agathe, qui, quelques instants avant d'être assassiné, parlait au monde et appelait à l'aide. Merci à Roméo Dallaire, merci à tous. Technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Olivier Daligo. Réalisation, Antoine Chao. Musique, Koye Nguyen. Musique et documents, Koye Nguyen. Assistante, Anne de Giaferi. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Je rappelle le titre du livre de Roméo Dallaire, général, lieutenant général Roméo Dallaire. J'ai serré la main du diable. Demain, deuxième partie de cette rencontre. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve donc demain à 17h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.